Je veux sortir là, allez là.
Sortez, ça fait trop du bien. Ça dégourdit les jambes, allez-y.
J'adore ça, moi je sors tout le temps.
Mais putain, grâce à sortir,
je sors encore plus.
C'est la fête avec les copains.
Oui, c'est la fête.
C'est la fête, sortez.
Oui, franchement, c'est trop chouette. C'est la culture, c'est sport. Allez-y quoi.
Sortez.
Sortez,
c'est
cool. Ok, vous voulez sortir?
Au chien bleu, chez
sortir.
Veuillez sortir.
Je suis chaud comme un chocolat.
Sortez tous avec nous.
Sors.
Et bienvenue dans Sortez, la quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle. Nous sommes le mercredi 22 février 2023 et nous sommes en direct du studio de Radio Campus Tours. Et oui, cette fois, je dis bien nous, car après 2 jours de solitude dans ce studio, j'ai enfin quelqu'un avec qui parler. Mais laissez-moi donc vous présenter mon invité du jour, Quenelle de Brest. Bienvenue dans l'émission. Merci. Pardon, excuse-moi, j'ai coupé ton micro.
Merci beaucoup.
Alors, donc tu es performeur dans le domaine du burlesque,
c'est ça.
Donc on peut te retrouver dans différentes compagnies, comme la compagnie Être, ou encore au sein du cabaret Le Secret, c'est ça?
J'en fais partie, oui, j'ai quelques scènes avec Le Secret, oui.
Et tu te produis aussi autre part que je n'ai pas citée?
Alors, disons que la maison mère... c'est la compagnie Être à Tours.
Okay.
Et après, c'est des occasions qui se présentent de rejoindre certains cabarets, certaines compagnies ou collectifs.
Okay.
Donc, c'est pour ça. Donc, j'ai par exemple le collectif Hic qui est à Tours. J'ai performé aussi avec Elle. Et j'ai performé à Dijon, tout dernièrement, au cabaret du Scandale, qui est tenu par une amie à moi, Ziggy Folly, qui fait du burlesque aussi.
D'accord.
Et qui donne des cours de burlesque, et c'était à Dijon.
Ok. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne sont pas trop calés dans le domaine, est-ce que tu peux nous dire ce que signifie le burlesque? En gros, qu'est-ce que tu fais?
Alors moi, je suis dans une frange de burlesque. Le burlesque a un parcours un peu long. On va dire que ça débute vraiment fin 19e, début 20e. C'est des spectacles de... Alors, on imagine souvent que c'est du striptease, mais en fait, on parle d'effeuillage burlesque pour bien différencier avec le striptease. Le burlesque, on va parler, c'est souvent des striptease, on va dire, à message, en quelque sorte, qui permettent de faire passer politiquement un rapport au corps ou à faire de la satire, faire quelque chose qu'on va un petit peu grossir, on va grossir des traits, et on fait un effeuillage dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce jeu de séduction pure souche qu'il peut y avoir dans le striptease. Donc on va s'effeuiller, mais même le burlesque, disons qu'il y aura des puristes. Donc s'il y a des puristes qui nous écoutent, ils vont nous dire c'est pas ça. Mais vous pouvez faire du burlesque sans forcément faire de l'effeuillage burlesque.
D'accord.
Après, l'intérêt est quand même d'un empouvoirment, c'est-à-dire le fait d'ôter les couches successives de vêtements, ça permet quand même un certain pouvoir qu'on a de montrer nos corps qui sont très différents. Alors, vous allez avoir des corps qui sont dans les canons, on va dire, de beauté actuels, sociétaux. Mm-hmm. Et puis après, vous allez avoir tous les corps qui vont être gros, les corps racisés, des corps qui n'ont pas forcément de place dans la société, dans les rues. Et on va les montrer. C'est-à-dire, moi, je suis un peu... J'ai quelques kilos en trop. je m'appelle Quenelle de Brest parce que c'est un jeu de mots avec Querelle de Brest, un livre de Jean Genet, un roman avec un marin hyper violent et
très viril.
et moi, je suis un peu pas trop comme ça et je suis plus moelleux comme une quenelle, on va dire. C'est pour ça que je joue là-dessus. Donc, le burlesque, ça vient... principalement, je crois, des États-Unis. Et après, ça s'est importé en Europe. Mm-hmm. Inga Ladouze, qui fait partie, donc, qui est la responsable de la compagnie Être à Tours, a créé une troupe dans les années 2000 sur Paris qui s'appelait Kissis Kostrobel. Mm-hmm. Et ça a été un peu un lancement, on va dire, français, début 2000, vraiment du burlesque tel qu'on peut le voir. Il y a des compagnies comme celle de Dita Crazy qui est à Tours aussi, qui performe au Triangle d'Or, qui va être sur un burlesque aussi à message, mais qui va être peut-être un petit peu plus classique. Ça permet vraiment l'empouvoirment à la base des femmes. Et moi, je pratique La petite variante, c'est que comme bon, je suis identifié comme, socialement comme homme, mm-hmm. Je vais pratiquer ce qu'on appelle le boylesque.
Oui.
Donc c'est la version burlesque, mais pour les hommes, c'est-à-dire montrer un corps d'homme. Donc là, même chose, vous allez avoir des corps très musclés, des corps très fins, très maigres. Il y a vraiment de toutes les représentations et on le voit assez peu. Généralement, les gens qui viennent voir des shows burlesques s'attendent à voir que des femmes.
Oui.
Et là, c'est des fois l'occasion un petit peu de rentrer dans l'art, mm-hmm. on va dire, en montrant que bah, des hommes aussi le font. Qu'il y a pas forcément, on n'est pas les Magic Mike, hein, donc on n'a pas tout ce background derrière.
Oui.
Mais on va essayer de faire réfléchir avec nos corps, avec nos chorégraphies, avec nos histoires. On a des numéros qui sont avec des narrations, un mm-hmm. début, un milieu, une fin. Donc on amène un personnage quelque part. Et c'est comme ça qu'on essaye d'amener un peu d'informations au public en les questionnant aussi sur les rapports à la masculinité. Enfin, dans mon cas, ça va être ça, dans le rapport au genre, le rapport... enfin, au queer, enfin, voilà, toutes ces questions-là, on va les amener petit à petit, en fait.
D'accord. Et oui, c'est vrai que là, tu parlais justement que les gens, d'habitude, quand on parle burlesque, ils pensent à des femmes voluptueuses, par exemple. On a souvent l'image de Dita Ventis, par exemple.
Tout à fait.
Et du coup, bah, je pense que c'est bien que, par exemple, à Tours, il y ait des, comme ça, comment dire, une mise en lumière de la discipline. Et oui. Du coup, est-ce que tu as d'autres, comment dire, d'autres artistes que tu voudrais mettre en lumière comme ça en tête?
Alors, bah du coup, donc à Tours, il y a Dita Crazy, Inga Ladouze qui fait du burlesque, il y a Miss Botero qui est aussi une performeuse burlesque très importante pour la communauté burlesque en France.
Mm-hmm.
Bah Ziggy Folly, donc ma copine de Dijon. Il y a toute une communauté, en fait, il faut nous suivre sur les réseaux. Je pense que c'est un peu comme les drag queens et les drag kings. Mm-hmm. On est un petit peu un milieu souterrain, underground, et du coup, les gens ne nous connaissent pas bien.
Mm-hmm.
Ils connaissent les hauts lieux, on va dire des cabarets, le Lido, où ils vont voir des femmes qui, généralement, ont à peu près tous le même corps et portent la même perruque.
Mm-hmm.
Mais on a vraiment des personnalités très, très différentes dans le milieu du burlesque. Zazu Mino, de Lady Dada... Camille Hijra qui fait du boylesque aussi. Il y a plein de noms, mais c'est des amis. Enfin, c'est devenu des amis. Même la Big Bertha, mm-hmm. La Big Bertha qu'on a retrouvée dans RuPaul Drag Race France,
mm-hmm.
fait du burlesque aussi.
D'accord.
Donc, il y a vraiment toute une communauté qui est là. Et il faut un petit peu creuser sur les réseaux. Et une personne vous emmène sur une autre personne. Ce que fait par exemple Dita Ventis, on va dire que c'est du burlesque très qu'on peut qualifier peut-être de néo-burlesque. Je suis pas très très calé sur les termes exacts, ouais. Donc je peux me tromper aussi, mais c'est plus voilà quelque chose de très raffiné.
D'accord.
Qui va être avec ses beautés très années 20, mm-hmm. quelque chose de très lisse. Voilà.
Oui, voilà
qui va être avec une grande coupe de champagne.
Mm-hmm.
Voilà, elle va faire le fameux numéro du champagne. Il y a toutes sortes de petits codes comme ça. Et nous, des fois, ce qu'on fait avec la compagnette, c'est qu'on va plus aller vers le viscéral.
D'accord.
C'est-à-dire on va plus, des fois, vers le sanguin,
mm-hmm.
vers des choses qui des cris, des choses qui vraiment vont nous toucher en profondeur et qu'on essaye de montrer voilà,
d'accord.
En numéro.
Ok. J'avais une question pendant que tu parlais. Tu parlais du coup de la discipline du drag.
Oui.
Du coup, c'est quoi la différence entre le boylesque, pardon, et la discipline de drag queen du coup.
Alors c'est vraiment deux choses différentes. C'est-à-dire que le boylesque, c'est la version, on va dire entre guillemets, masculine du burlesque.
D'accord.
Mais quand on cherche sur les réseaux, c'est majoritairement des hommes qui vont être... en marins, qui ont vraiment une identité de personnage qui vont être masculins, enfin qui va être masculine.
Mm-hmm.
Il n'y a pas tout ce jeu comme il y a dans le drag de la performance de genre. Il n'y a pas forcément, en fait.
D'accord.
C'est pas une obligation. On peut cumuler les deux. Moi, j'aime bien faire du drag king, par exemple.
Mm-hmm.
Le drag king, donc, c'est la représentation qu'on va pousser à l'extrême d'une figure masculine. Alors que je suis considéré comme un homme, hein, mais mm-hmm. je vais pousser plus loin.
Mm-hmm.
Ça, j'aime bien faire. Mais je l'ajoute au boylesque. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, ce sont deux choses, deux disciplines très différentes.
D'accord.
Il n'y a pas tout ce travail du maquillage, du costume qu'il peut y avoir dans le drag, que ce soit king, queen ou queer, et toutes les variantes qui peuvent exister. On est vraiment sur une discipline, le boylesque ou le burlesque, et après une autre discipline, le drag, dans son ensemble.
D'accord. Je reviens tout à l'heure, on parlait du coup de ton personnage sur scène.
Ouais.
Comment tu as créé ce personnage, justement ?
Alors moi, c'est un personnage qui, je pense, m'habite depuis très longtemps. Donc, j'ai commencé le burlesque en 2019.
D'accord.
Donc, il y a 4 ans maintenant. J'ai commencé donc le burlesque. Et j'avais une vague idée d'un personnage qui s'est avéré, en fait, être celui que j'ai gardé pendant très longtemps. Quenelle de Bresse, c'est un personnage qui, à la base... était un homme des années 20-30, très époque cabaret, le film cabaret, les cabarets berlinois, vraiment cet aspect-là, et proche du mouvement Dada, tout ce qui est mouvement surréaliste, mouvement Dada, et qui est marié à une femme lesbienne, est homosexuel, et des fois se travestit en femme à quelques soirées, voilà. Et petit à petit, ce personnage-là, je l'ai fait évoluer. C'est vrai que je crois que c'était au tout premier cours, j'avais dit, je le vois bien se travestir parfois en femme, mais je pense que je le ferai une fois, c'est tout. Et au final, bon, je le fais très régulièrement. C'est devenu quasiment un drag. Enfin, c'est très compliqué pour moi, la limite entre travestissement et drag, pour moi, personnellement, et sur mon personnage, est très variable, très compliqué à trouver. Il y a un peu de clown, il y a un peu de plein de choses autour de ce personnage-là. Mais ce personnage a été créé voilà, comme ça, vraiment avec cette envie des cabarets berlinois qui sont interlopes, où la question du genre est aussi importante. Il y a beaucoup de représentations lesbiennes, gays, voilà, qui pouvaient graviter autour de ces lieux-là. Et puis, il y a une esthétique, on va dire, il y a une esthétique d'avant-guerre qui est plutôt intéressante. L'artiste Claude Cain, que j'aime beaucoup, qui est une artiste qui a travaillé beaucoup sur l'identité, et l'identité féminine, l'identité masculine, le neutre aussi. Voilà, c'est un petit peu Kiki de Montparnasse aussi, enfin, des figures comme ça qui m'ont intéressé. Et que j'ai essayé les premiers temps, en fait, de garder une logique avec ce personnage-là. Et petit à petit, j'ai trouvé que c'était un peu encombrant d'avoir une histoire vraiment précise du personnage. Donc, Quenelle, des fois, revient dans les années 30, parfois. Et puis, des fois, il va sur autre chose. Il fait du Mireille Mathieu en lip-sync.
D'accord.
et ça marche très bien aussi. Donc, voilà, ça peut être très varié.
D'accord. Donc, c'est un voyage dans le temps, finalement.
Ah, mais totalement, totalement.
Très bien. Alors, tu disais justement que tu as commencé à élaborer ce personnage à partir de 2019.
Oui.
Alors, du coup, on va encore remonter un petit peu avant. Comment tu as connu le burlesque, justement ?
Alors, j'ai connu le burlesque il y a 4 ans. En fait, j'avais pas vu le film tourné de Mathieu Amalric, qui est un film autour de toute une bande de performeuses burlesques américaines. Donc, je n'avais pas vu ce film-là. Mais en 2019, l'une des premières, on va dire, soirées queer dont j'ai entendu parler, en tout cas à Tours, c'était la Bifur Queer. C'était une soirée queer qui s'est passée début février 2019. Et j'avais à l'époque une émission de radio avec ma collègue Clémentine. Et on avait été demandé pour faire un plateau, en fait, d'émission radio, et interviewer les différentes personnes qui s'y trouvaient. Et parmi ces performeuses qui étaient présentes, il y avait Inga Ladouce, que je ne connaissais pas.
D'accord.
Donc, on se met à lui poser des questions sur qu'est-ce qu'elle va performer ce soir-là, et puis qu'est-ce que le burlesque, est-ce que ça convient à tout le monde, enfin, voilà. Donc, on pose des questions, et puis elle nous dit à la fin du mois, j'ai mon premier show burlesque à Tours. On dit si ça vous dit de venir, n'hésitez pas. Ok. Mon émission était sur une radio autre, qui est à Tours. Elle nous contacte, elle nous dit je peux faire gagner des places pour ce premier show. Peut-être qu'on peut faire un concours ensemble. Enfin voilà. Ok, pas de souci. Donc on y va. Et puis on s'était dit avec Clémentine qu'on allait interviewer aussi des performeuses à cette occasion. Et on y va. Et pour moi, ça a été une grande, grande claque. Parce que j'ai vu des personnalités très très différentes. Il y en avait qui faisaient du burlesque avec vraiment effeuillage. Il y en avait d'autres comme Hôtel de Ville que j'aime énormément, qui faisait plutôt du clown, qui est entre le burlesque et le clown, et la limite est parfois très, très très fine. Et en fait, je me suis pris la soirée en pleine figure en me disant mais en fait c'est ça que j'essayais de faire quand j'étais petit, que j'avais 7-8 ans, à me dire, ah, j'aimerais bien créer des petits sketchs courts, des petits numéros courts. En fait, j'ai eu l'appel de cet art-là, ce soir-là, cette soirée-là, et je trouve que c'est assez... c'était éblouissant, en fait, à voir et de se dire, ah, j'ai peut-être trouvé ma maison, en fait. Ouais. J'ai peut-être trouvé quelque chose qui me correspond profondément.
Okay.
Et après, j'ai suivi les workshops, donc de l'accompagner être avec Inga Ladouce. Et c'est comme ça que je suis arrivé à 4 ans après, parler à ce micro.
Ok. Alors, il y a un terme que ça fait plusieurs fois que tu utilises, c'est le terme de faire le clown. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire par là ?
Oh là. Alors, ce n'est pas du tout péjoratif.
Oui, bien sûr.
C'est une pratique artistique, au même titre que le burlesque, que faire le mime, que faire du théâtre. C'est une pratique, en fait, que moi, je n'ai pas de formation en clown, mais c'est une pratique que je trouve assez éblouissante. Cette recherche, où on ne recherche pas vraiment de faire rire, ça vient presque naturellement, et c'est une ouverture à soi-même vis-à-vis des autres qui amène le rire, souvent. Et je pense que c'est une pratique extrêmement compliquée, qui peut parfois être piégeuse, parce qu'on peut se... On peut se cacher derrière l'image d'un clown en disant c'est bien, il fera toujours rire. Et du coup, c'est une pratique artistique qui pour moi a un potentiel de fou. Et je peux pas décrire exactement ce que c'est, mais il y a tout un travail sur le neutre, sur le masque neutre, sur qu'est-ce qu'on donne à voir, comment nos visages... L'idée du net clown, je pense que c'est aussi pour se cacher derrière ça. Alors que des fois, le burlesque, on fait de l'effeuillage presque intime.
D'accord.
Donc il y a cette confrontation que je trouve assez intéressante entre qu'est-ce qu'on peut montrer derrière un net, enfin qu'est-ce qu'on montre à voir alors qu'on a un net clown qui nous protège, et qu'est-ce qu'on effeuille devant les gens. Donc c'est plus ces petites choses-là qui m'intéressent.
D'accord.
Parce que je suis un autodidacte complètement. C'est-à-dire j'ai les formations, j'ai suivi les workshops en burlesque. Mais après, quand je performe sur scène, mes créations de numéros, ma pratique du théâtre en amateur me servent à ces moments-là. Mais je n'ai pas, j'ai pas fait d'école de comédie, j'ai pas fait d'école de clown, j'ai pas fait d'école de mime. C'est des choses que j'apporte de moi-même, on va
dire. D'accord. Alors, qu'est-ce qui te plaît plus généralement dans le boylesque du coup. À chaque fois, je dis burlesque, c'est boylesque.
Mais les deux me vont. Qu'est-ce qui me plaît ? Je pense que moi, c'est l'aspect très politique que ça a. Y a certes un aspect esthétique qu'on va rechercher, mais l'aspect politique prime, c'est-à-dire le message. Quel message on veut faire passer et comment on le fait passer ? Et ça, pour moi, c'est vraiment la chose qui est la plus intéressante à faire.
D'accord.
On peut être dans du divertissement pur. Ça peut être très amusant, mais... je trouve que c'est toujours bien de pouvoir ajouter un petit message derrière. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que notre personnage essaye de dire ? Qu'est-ce qu'on essaye de transmettre ? Qu'est-ce qu'on reçoit aussi du public ? Et tout ce jeu-là, c'est ce qui m'intéresse le plus avec le burlesque. Pour donner une idée, j'ai fait un numéro, par exemple, sur mon coming out, où je lis le mail que j'ai envoyé à ma famille, alors quand j'avais 19 ans, donc ça remonte un petit peu maintenant. Mais ça commence comme cela, donc les gens entendent ce que j'ai écrit à ma famille. Et je fais un effeuillage juste après, qui est très intime.
D'accord.
Ce sont des choses comme ça qui, politiquement, on n'a pas forcément l'idée. Il y a des films qui sortent sur le coming out, voilà. Mais... en tant qu'art vivant, c'est important aussi de montrer et que dans la salle, il y ait des gens qui soient réceptifs. Il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas du tout parler, qui ne vont pas comprendre. Et il y en a d'autres, bah, ça va peut-être les toucher parce que ça leur correspond. Et je crois que le burlesque, c'est ça. C'est-à-dire, en 7 minutes, on peut faire chavirer une salle dans je refuse de voir ça ou on me force à voir ça et en même temps, ça me questionne. Mm-hmm. Et il y a ce questionnement derrière. Qu'est-ce qu'on apporte et qu'est-ce que les gens retirent aussi de nos performances.
D'accord. Alors, j'avais une dernière question avant de passer à la première pause musicale, si j'arrive à la passer. qu'est-ce que je veux dire ? Oui, tout à l'heure, tu parlais que donc, pour ta discipline, tu vas pas justement dans le côté lisse du burlesque, comme on parlait tout à l'heure avec Edith Avantis, que tu disais qu'on allait plus dans le cru, on va dire. Mais comment on peut faire, donc, faire du cru sans tomber dans le vulgaire et le graveleux ?
Alors, donc ça, c'est des petites nuances. La réponse n'est pas toute simple.
je comprends.
je pense que ce sont des choses qui se... ce sont des choses qui se travaillent petit à petit. Déjà, travailler seul, ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas le recul non plus nécessaire. On a les idées dans la tête, on peut trouver une chorégraphie. Mais... faut aussi se rendre compte qu'il faut qu'il y ait un regard en face, un peu miroir, qui nous permette de dire « Attends, là, ça va un peu trop dans le vulgaire, un peu trop dans ça. » Donc, on joue en fait à chaque fois, on est vraiment sur le fil. J'aime bien cette image du funambule, c'est qu'on est toujours sur le fil. On va pousser de la satire, on va parler de féminisme, on va parler de plein de choses comme ça. Mais il faut qu'on arrive à doser à chaque fois. Et cet apprentissage-là, il se fait petit à petit. Je pense que des fois, on a pu se tromper en allant vers des trucs hyper graveleux et ça fait rire personne.
Ouais.
Mais des fois, il faut amener sa douceur à soi et sa vulnérabilité à soi. Et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est que quand je dis trash ou graveleux, c'est qu'il y a quand même quelque chose de nous qui ressort. Et je pense que c'est ce qui fait que, quand ça vient du cœur plutôt que de la tête, c'est ce qui permet d'avoir un langage beaucoup plus clair et qui est aussi respectueux de ce que peuvent voir les gens, de ce que peuvent entendre les gens. Et donc, on ne va pas pousser non plus à un excès sauvage, on va dire. Pour choquer, on n'est pas là pour choquer. On est là pour délivrer un message. Du coup, on l'enrobe de telle façon à ce que ça puisse passer quand même.
D'accord. Eh bien, merci pour ces super réponses. On va maintenant se permettre une petite pause en musique. Et pour cette émission, ce ne seront pas des pauses musicales ordinaires, car c'est Lionel qui a gentiment proposé des musiques pour les passer à Radio Campus Tours. Et donc, on va commencer avec une des suggestions qui est « Ni morte ni connue » de Mansfield Tia. C'est comme ça que ça prononce ?
Alors, je crois que ça se prononce avec vraiment un accent très anglais, la fin, mais je ne sais jamais. Donc moi, je dis Mansfield Tia aussi, mais alors, je pense qu'il ne faut pas le dire comme ça.
Alors, avant qu'on la diffuse, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi cette musique ?
Alors, je suis allé les voir en concert parce que c'était leur dernier concert. Elles arrêtent en novembre, début novembre, je crois. Et c'est vraiment très queer. Elles sont passées à Ocar, je crois, l'an dernier. Voilà, donc c'est très queer. C'est sur des histoires d'amour lesbiennes. Et voilà, c'est souvent très, très cool.
Ok. Eh bien, on écoute ça tout de suite dans Sortez sur Radio Campus Tours 99.5 FM. À tout de suite.
Questa mattina. Durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri. Solitaria, ho pensato ai miei amori passati.
pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori, amori futuri. Solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.
Et c'était ni morte ni connue de Mansfield Tia dans Sortez. Je suis toujours accompagnée de Quenelle de Brest, performeur burlesque boylesque. Donc avant cette première pause, on a parlé du domaine du burlesque et du boylesque dans, et de ton personnage sur scène. Alors maintenant, on va plutôt s'intéresser à une de tes autres passions, qui est, il me semble, la littérature,
oui.
Et plus précisément la littérature queer. C'est un sans faute pour l'instant.
Oui, ça marche.
Alors, parce qu'à côté de ton activité de performeur, tu es aussi bibliothécaire, il me semble.
C'est ça.
Alors, hop, je tourne ma feuille. Bon, le bon sens, c'est bon. Donc, première question. Pourquoi cette passion, justement, pour la littérature queer spécialement?
Alors.
La question à 10 euros.
Alors, la littérature queer parmi d'autres littératures, mais c'est vrai que là, depuis quelques années, j'en lis davantage. Et peut-être qu'il y a des parutions qui sont aussi beaucoup plus présentes éditorialement. Alors, la littérature, bon, ça vient de l'enfance, je lisais beaucoup. Mm-hmm. Imagination, écriture, tout ça. Donc, voilà, on baigne. J'ai baigné dedans pendant très longtemps. J'ai fait des études pour être dans les métiers du livre.
D'accord.
J'ai été libraire, je suis maintenant bibliothécaire. Mais la littérature queer m'intéresse. Alors, je ne lis pas tout ce qui peut sortir, loin de là, parce qu'il y a énormément de choses qui sortent. Mais je trouve ça assez intéressant, l'aspect de représentation. C'est-à-dire, on n'a pas, dans la communauté queer, on n'a pas une représentation extrêmement folle. Alors, ça arrive depuis, on va dire, 2000, début 2000. Ça arrive d'avoir des personnages qui arrivent dans les séries, des films qui sont aussi créés voilà, avec des personnages queer, mais c'est toujours un petit peu compliqué de s'identifier. Et donc moi, je suis né dans la fin des années 80. Quand on grandit et que notre seul et qu'on se considère comme gay, qu'on vit en province, que notre seul moyen d'accéder à des histoires, on va dire, amoureuses, gays, bah, c'est souvent à la bibliothèque, mine de rien. Et puis, on n'a pas une représentation extrêmement folle. 90, début 2000, on a encore, en fait, tout cet aspect d'une littérature qui est très liée au sida.
D'accord.
Aux années sida, donc souvent, on sait que l'un des deux personnages va décéder d'ici la fin. Il y a vraiment toute cette littérature-là, ces films-là qui sont toujours très glauques. Enfin, au final, on n'a pas des représentations d'histoires d'amour ou de qui se passent bien, comme Heartstopper, par exemple, quand j'ai vu la série qui passe donc sur Netflix. Mm-hmm. qui est adapté d'une bande dessinée.
D'accord.
Quand j'ai vu la série, je me suis dit, mais en fait, c'est ça que j'aurais voulu avoir quand j'étais ado. Mm-hmm. De me dire, alors c'est très... Ça peut être considéré comme quelque chose de très, très mièvre. Mais au final, avoir deux ados qui se tiennent la main à un moment donné et qui s'embrassent et que c'est tout doux, mm-hmm. ça dure 20 minutes chaque épisode et que c'est simplement doux, qu'il y a des représentations trans, qu'il y a des représentations lesbiennes et de se dire, ouais, je ne suis pas tout seul dans ma vie à pas comprendre ce qui m'arrive, surtout à l'époque de l'adolescence, à pas comprendre pourquoi tout le monde parle de garçons et de filles et que moi, c'est autre chose. Il y a autre chose qui m'attire. Je pense que ça, c'est important d'avoir des représentations. Et je me suis intéressé dernièrement aux littératures queer. Enfin, ça, comme je disais, on essaye de piocher. Des fois, il y avait un aspect d'interdit quand j'étais plus jeune, de me dire « Oh tiens, je vais aller emprunter la chambre de Giovanni, de James Baldwin, parce que je sais qu'il y a une histoire d'amour entre deux hommes. Mm-hmm. » Il y avait un aspect d'interdit, alors que c'est une histoire, c'est une relation assez banale. Ils tombent amoureux, un Américain tombe amoureux d'un jeune homme qui s'appelle Giovanni. L'Américain est déjà en couple avec une femme et il ne sait pas très bien ce qui se passe en fait chez lui. Mais nous, quand on lit ça, quand moi j'ai lu ça quand j'étais plus jeune, j'étais juste là en train de me dire « Mais c'est trop beau cette histoire, ça va être, c'est fabuleux » parce que je n'avais rien qui m'identifiait.
Oui.
Et je trouve que la littérature queer, on part souvent, donc au même titre que les films, pendant des années, tout ce qui est film un petit peu, on va considérer comme gay, ça fait très cliché ce que je veux dire, mais c'est souvent la rencontre d'un week-end qui va changer la vie de deux hommes, un peu Brokeback Mountain, quoi. et puis à la fin, ils se quittent.
Oui.
À la fin, il n'y a pas de relation qui se crée, il n'y a rien qui se crée. Et moi, je trouve ça tellement, tellement lourd, parce que je me dis, mais attendez les gars, vous avez passé un super week-end ensemble, ce serait bien quand même qu'il se passe quelque chose de peut-être plus profond. Et ça durera le temps que ça durera, mais il faut peut-être se l'autoriser. Et on a toujours cet esthétisme, que moi, j'appelle ça l'esthétisme gay, de quelque chose de très... Oh, ils s'aiment et ça durera le temps d'un été et après ils se quitteront ou sinon ils font tous les deux du rugby, ils sont tous les deux des hommes forts et sous la douche ils se rendent compte qu'ils s'aiment et je me dis il y a peut-être d'autres personnages qui sont peut-être intéressants à voir.
Ça reste toujours un peu la même chose.
C'est ça.
Ça manque de diversité quoi.
C'est ça.
Ok.
Et la littérature queer, j'y suis venue aussi avec le Orlando de Virginia Woolf. Autrice britannique que j'aime énormément et qui crée donc le personnage d'Orlando pour un de ses romans, un roman que je conseille, que je trouve extrêmement drôle. Virginia Woolf était amoureuse d'une femme qui s'appelle Vita Sackville-West, aristocrate anglaise, elle lui a écrit ce roman en lien donc avec son histoire d'amour avec cette femme. Et Orlando est un personnage qui est homme pendant toute l'époque élisabéthaine en Angleterre et qui tombe amoureuse d'une princesse russe. Et lors d'un grand gel, le personnage s'endort, le personnage d'Orlando s'endort et se retrouve du jour au lendemain avec un corps de femme et devient Orlando. Femme.
D'accord.
Donc sans que ce soit l'étiquette queer qui soit bien marquée sur le Orlando de Virginia Woolf au moment de sa sortie, parce qu'à l'époque, je pense que le mot était peut-être employé, mais c'était pas... Elle ne l'a jamais identifié comme tel. Hein.
D'accord.
Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment très queer. C'est-à-dire ce passage-là de homme à femme. Et puis, c'est un personnage qui défie les lois de l'espace et du temps parce que ça commence donc le roman avec le Orlando homme à l'époque élisabéthaine et ça se termine dans les années 20,
d'accord.
1920, avec une femme. Donc, elle a vécu au moins 4 siècles, 3 ou 4 siècles, je crois. Et c'est tout aussi les relations amoureuses qui se nouent. Donc, c'est quelque chose de très drôle qui est une sorte de biographie de ce personnage hors du commun. Et je trouve que pour moi, il a quelque chose de très queer et c'est l'un de mes personnages préférés, je crois. Et je pense que Quenelle de Brest vient un peu de là aussi.
D'accord. Ok. Aussi, tu ne fais pas que lire, mais aussi tu écris.
J'écris aussi.
Alors, de quel genre d'écriture fais-tu alors ?
Alors, donc j'écris majoritairement du théâtre, parce que pour moi, c'est un langage qui est beaucoup plus facile. Cet aspect scénique, c'est quelque chose que je visualise plus que le roman. À dire vrai, j'ai un livre du coup qui va sortir courant septembre.
Oh, petit teasing.
Oui, petit teasing dans une petite maison d'édition. Et c'est une pièce de théâtre qui est queer avec deux femmes. Enfin, l'histoire de deux femmes. Ça se passe pendant le premier confinement. Et c'est une pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre un peu particulière parce que la didascalie, je me fous un peu des conventions, je dois avouer. Et du coup, les didascalies de la pièce sont vraiment de la narration pure.
D'accord.
Donc, ça peut se lire. Je pense que ça peut se monter. Avec une mise en scène, mais je souhaite bon courage à la personne qui a envie de... J'y ai pas trop pensé, en fait. C'est écrit de telle façon qu'on voit bien les déplacements, qu'on voit bien les décors et autres. Mais mon but n'est pas là. Et mon but, si ça peut être lu, que ça peut être doux. Et je pense que c'est ça qu'on attend aussi d'une littérature actuellement queer. C'est à la fois, on a des personnes comme Virginie Despentes qui va y aller, enfin que moi je considère comme queer et qui va y aller et qui va défendre certaines positions. Et à la fois, nos communautés ont besoin aussi d'entendre des histoires d'amour douce, des choses qui nous bouleversent à l'intérieur, mais qui sont faites avec amour, beaucoup de tendresse, des choses comme ça. Et je crois que quand on a le pouvoir de l'imagination, quand on est artiste, c'est aussi de notre devoir de pouvoir aller vers des histoires, vers des fictions à créer qui ne sont pas que du dégoût de soi, que des choses qui sont péjoratives. Parce qu'on a aussi ce pouvoir-là dans la fiction de pouvoir inventer des mondes et d'inventer des mondes qui peuvent être doux et lumineux. Et je pense que c'est aussi de notre devoir. Et du coup, je travaille beaucoup l'écriture de cette façon-là.
D'accord. Et ouais, donc du coup, tu pensais pas, genre, par exemple, le monter toi-même sur scène ?
Non, parce que alors là, je pense que je n'ai absolument pas les reins assez solides. non, c'est vrai que c'est vraiment une pièce que j'ai pas pensé. Voilà, elle a vraiment tous les critères d'une pièce, c'est-à-dire, comme je disais, les déplacements, les décors et autres. Mais elle a quelque chose d'autre qui fait que pour moi, il y a plus de la lecture qui peut en jouer. Peut-être une lecture théâtralisée, c'est-à-dire sans forcément qu'il y ait de décor de déplacement ou autre, mais qu'il y ait une lecture à quatre voix, éventuellement à trois voix. Ça m'intéresserait peut-être de monter.
Okay.
Et ce projet-là, se terminant, là je suis en pleine correction avec l'éditrice, ce projet-là m'amène vers d'autres projets et là je me dis une histoire d'amour gay, je pense que c'est le genre de choses que j'aimerais bien écrire aussi.
Et du coup, est-ce que tu as le titre de ton prochain...
Alors ça va s'appeler Des phalènes, ou ce qu'il advint de Paul Courly après qu'Alma Joussaume fut changée en arbre par des fées. J'aime bien les titres courts.
Oui, c'est... c'est très long comme titre.
Ça s'appelle Des phalènes et il y a juste un sous-titre après.
Ça marche. Ok, et on a hâte que ça sorte. Tu as une date précise ou
j'ai
pas encore ?
J'ai pas de date précise. Je sais même pas si je devais en parler à la radio, mais ce n'est absolument pas grave.
Personne ne nous écoute, t'inquiète.
Et puis on est en plein travail de toute façon éditorial aussi là-dessus, donc ça ne me dérange pas.
Ok.
Mais oui, c'est quelque chose de fort parce que pendant très longtemps, je me suis refusé à... Je pense que j'ai passé du temps à vouloir écrire parce que l'écriture est vraiment quelque chose de très important pour moi, mais de ne pas forcément m'autoriser. Et là, qu'une maison d'édition me dise « Banco, ton projet m'intéresse et si tu as envie de l'écrire, je peux t'accompagner », je me suis dit « oui, c'est l'occasion
». Ouais.
Et ce projet-là, on a l'impression souvent qu'on écrit pendant des mois et des mois, mais je pense que j'ai tellement porté dans ma tête pendant quasiment 9 mois qu'au bout de 9 mois, il y a quelque chose qui surgit sur l'écran d'ordinateur et c'est cette pièce-là et j'en suis assez ravie.
C'est cool. On espère le meilleur pour cette sortie d'ouvrage.
Merci.
Alors. je vais revenir un peu sur ton profil Instagram.
Oui.
J'ai vu que tu avais mis une story à la une où tu demandais à tes abonnés des suggestions de lecture queer justement en précisant que tu voulais des fictions et pas des essais. pourquoi ce choix, justement ?
Parce que souvent, les fictions sont quand même beaucoup plus lues que les essais. Je pense qu'il y a... j'aime énormément les essais. J'ai vraiment les biographies, les essais et les fictions que j'apprécie. Donc moi, je ne fais pas trop de distinguo dans mes lectures. Mm-hmm. Mais je sais que les essais, parfois, ça peut être compliqué parce que l'écriture n'est pas du tout adaptée. Mmh. Un langage, on va dire, tout public. L'accessibilité est parfois compliquée pour certains essais. Et les fictions, je trouve que c'est intéressant parce que l'identification à un personnage, je trouve ça parfois beaucoup plus intéressant qu'une longue dissertation sur un sujet précis. Et des fois, les fictions peuvent permettre d'amener plein de sujets au lieu de... Voilà, amener plein de sujets au lieu d'un seul sujet. Et je trouve que les fictions, ça peut être vachement bien pour ça, que ce soit en film, en livre, en bande dessinée, en manga. Enfin voilà, tout ce qui est fiction, je trouve que ça peut permettre aux personnes de s'identifier plus facilement.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire, donc, avec la continuité de tout ça, ton top 3 des lectures préférées ?
Alors.
Et pourquoi ?
Bah, du coup, il y a le Orlando, ça c'est sûr, de Virginia Woolf. Comme je l'ai dit, hein, c'est, il y a quelque chose de très... C'est écrit vers les années 1927-28, je crois. Il y a quelque chose d'assez fantastique, hein, l'idée qu'un corps masculin, d'un coup, se transforme en corps féminin. Mm-hmm. Et ce rapport aussi... les rapports changent. Hein, les rapports, c'est-à-dire que c'est un seigneur qui a une propriété. Mm-hmm. Et au final, l'un des avantages qu'elle a, c'est qu'elle garde son identité d'Orlando et donc elle garde les actes de propriété. Mm-hmm. Donc elle est quand même seigneur aussi, ouais. en étant femme. Et ça, je trouve ça quand même très, très cool. Donc Orlando de Virginia Woolf, ça, c'est sûr. J'essaie de retrouver ma liste.
T'inquiète, prends ton temps. On a le temps.
C'est le petit... C'était un peu compliqué pour moi ces questions-là parce que c'est dur de faire un top 3.
Je comprends.
Après, je conseille vraiment les livres de Heartstopper, là, les bandes dessinées, que moi j'ai découvert donc avec la série. Je les avais vus passer, mais c'est vrai que je n'avais pas trop, j'étais pas trop allé dessus. Donc je crois que c'est... Je cherche le nom de l'autrice. Alice Osman, qui est la réalisatrice, il me semble, du programme sur Netflix et qui est aussi dessinatrice, illustratrice, scénariste des bandes dessinées. Donc il y a vraiment sa patte tout le long, on va dire. Et c'est l'histoire donc, d'amour, la rencontre au lycée de Nick et Charlie. Qui sont donc deux lycéens que tout oppose. C'est-à-dire, il y a celui qui fait plutôt du rugby, et puis l'autre qui est pas très porté sur le sport, mais. Et donc les deux vont se rencontrer. C'est cette histoire d'amour qui naît. Et puis il y a des personnages secondaires qui, pour une fois, sont des personnages secondaires qui sont presque principaux aussi. Hein, c'est-à-dire la relation amoureuse lesbienne. Une jeune femme trans qui arrive donc dans le lycée pour filles, comment ça se passe pour elle dans ses relations. Donc Heartstopper, que ce soit la bande dessinée ou la série, je conseille vraiment cette série-là.
Ok.
Et j'ai parlé de La Chambre de Giovanni, James Baldwin, qui est aussi un grand auteur américain, noir américain. Qui est pour moi un très très grand auteur. Donc La Chambre de Giovanni, qui est sortie dans les années 50, qui raconte l'histoire d'un Américain du coup, qui tombe amoureux d'un jeune homme et qui s'appelle Giovanni. Et alors que cet Américain-là est censé être fiancé à une jeune femme, et qu'est-ce qui se passe en lui, c'est très Stefan Zweig, ça ressemble un peu. C'est un peu la découverte, je crois que c'est avec la Zouz Letter, Bédélire, la Zouz Letter, que j'ai découvert ça. Je crois que c'est Manon de la Zouz Letter qui me l'avait conseillé. C'est un recueil de poésie un peu particulier qui s'appelle Fiévreuse plébéienne de Élodie Petit, qui est... Je ne l'ai pas avec moi, donc c'est très compliqué de pouvoir en parler comme ça, mais je pense qu'il faut vraiment que vous jetiez un œil. C'est une relation, c'est une histoire aussi d'amour, sous forme de poésie. La langue est complètement travaillée de mille et une façons. Il y a des choses. Il y a un personnage, il y a une sorte de personnage un peu de drag king qui est là, qui est là de bout en bout. Elle utilise beaucoup Rimbaud. Elle a un personnage qui s'appelle Johnny à l'intérieur. Mm-hmm. C'est entre de la poésie narrative et autre chose. Et pour moi, c'est vraiment une claque parce que ça parle de sexe, ça parle de relations amoureuses. Il y a plein de petits poèmes qui s'entrecoupent, qui parlent d'autres choses aussi sur la vie en général, sur le rapport, comment dans la communauté queer, qu'est-ce qu'on vit de nous et qu'est-ce que vit la société vis-à-vis de nous. Et pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Un livre comme ça, je trouve que c'est vraiment de qualité. L'édition est juste superbe. Et d'un point de vue typographique, d'un point de vue poésie, pour moi, c'est complètement barré, mais je trouve que c'est un très bon livre à conseiller pour de la littérature queer. Ça déménage, on va dire, ça déménage.
Eh bien, si ça déménage, on espère que nos auditeurs et auditrices vont jeter un œil pour les curieux, les plus curieux d'entre eux et elles. Alors, on va marquer une deuxième pause musicale, hein, là aussi suggérée par Quenelle ici présent. Cette fois, nous allons écouter Le Monarque des Indes de Pierre Lapointe. On écoute ça tout de suite dans Sortez sur Radio Campus Tours. À tout à l'heure.
Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. Tu tisses des étoffes de joie avec tes rires, avec ta voix. Tu fous le feu à mes combats, je ne sais pas qui gagnera, ma peur, mes vertiges ou ma foi. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas. Qui valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Tes airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant, propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas. Tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle ou l'amour à dos d'hirondelle? La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre à plus tard le verdict face à nos espoirs. Tu dessines des murs, des plafonds, moi je saoule avec des chansons. Séparés par un océan, on marche sur un fil d'argent, j'aimerais pouvoir être géant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas. Tenter de comprendre où mènent les histoires qui valent la peine.
Et c'était Le Monarque des Indes de Pierre Lapointe. De retour dans Sortez, Le Monarque des Indes de Pierre Lapointe, recommandé par Quenelle, présent avec moi tout au long de l'émission. Alors, même question que pour la première pause musicale, pourquoi avoir suggéré ce titre ?
Ce titre-là, alors Pierre Lapointe, c'est un compositeur, interprète du Québec que je connais depuis très très longtemps. et qui a été le premier à parler d'histoire d'amour homo.
D'accord.
En fait, dans ses chansons, enfin que moi j'ai entendu en tout cas, et cette chanson, je la trouve tellement douce sur cette histoire d'amour. Voilà, c'est vraiment de la douceur et j'aime bien ce que Pierre Lapointe fait. Et là, c'était un moyen de mettre en avant cette jolie petite histoire.
C'est vrai. Et puis le clip est très joli aussi.
Le clip est très très beau aussi.
Je vous invite, chers auditeurs, auditrices, à aller jeter un œil. C'est très poétique, très coloré, très doux finalement. Alors pour cette dernière partie de l'émission, je voulais un peu parler de la vision du burlesque et du boylesque dans la société. On va un peu survoler ce sujet parce que je vois que l'heure tourne. Donc en première question, je voulais savoir comment les gens y réagissent quand tu leur apprends que tu fais du burlesque.
Souvent, ils ont. Je suis quand même obligé d'ajouter un petit peu ce que c'est parce que il y a cette image de, vraiment du striptease qui est là, oui. Qui fait la part belle, enfin qui est vraiment le truc qui revient régulièrement. Et donc là, de réexpliquer un petit peu le fonctionnement. Après, je pense que c'est quelque chose qui surprend beaucoup parce qu'ils s'attendent pas. J'ai un petit côté bon chic, bon genre, ce qui fait qu'ils s'attendent pas trop à ce que je leur dise. Je monte mes fesses une fois par mois. Donc ils sont pas trop dans cette attente. Enfin, ils s'attendent pas à ça.
Okay.
Donc il y a de la surprise et en même temps, je pense qu'il y a de l'intérêt de comprendre ce que c'est.
D'accord.
J'ai jamais eu d'aspect négatif. Et si les gens, ça ne les intéresse pas, généralement, ils ne posent pas de questions et on n'en reparle pas.
D'accord. Ouais, voilà. Tu n'as jamais eu de réflexion négative
Non, non, non.
Ouais, de moquerie, rien du tout.
Non, j'ai rien eu.
C'est cool.
Oui, oui, oui.
Mais du coup, je pensais que ce n'est pas difficile de supporter le regard des gens quand on commence. Justement, la première fois, par exemple, qu'on monte sur scène, de se dire, comme tu disais, je vais montrer mes fesses devant des gens que je ne connais pas.
Alors, moi, je ne suis pas très... j'ai une pudeur, mais oui. Je n'ai pas cette pudeur-là quand elle est accompagnée. Enfin, quand je sais que je vais devoir monter sur scène, je suis dans une énergie qui est totalement autre que l'énergie que j'ai là dans le studio ou chez moi, où je peux être un petit peu plus réservé parfois. Et du coup, je pense que je me lâche. Le costume aide. Le maquillage aide,
oui.
C'est-à-dire quand je me maquille, généralement, j'aime beaucoup les photos qu'il peut y avoir sur, par exemple, de photos prises lors des maquillages, car c'est vraiment ce passage-là qui permet de rentrer, on va dire, dans le personnage de Quenelle. Et du coup, je pense qu'on se protège malgré tout derrière. Même si on parle de choses très intimes et qu'on montre aussi une partie de notre intimité, c'est-à-dire nos fesses, nos pieds, enfin tout le reste, quoi. Je pense qu'on est protégé. C'est une augmentation de nous-mêmes, en fait, ces personnages-là.
Oui.
Donc moi, je sais que c'est peut-être plus compliqué. Ça a été plus compliqué pour des amis de le faire. Pour moi, ça n'a pas été compliqué après. Je pense aussi que quand on est un homme, ou en tout cas considéré comme tel, se mettre torse nu en regardant passer les gars des routes, je dis n'importe quoi, mais on a plus souvent quand même des hommes qui se foutent pas à poil, mais en tout cas torse nu, quoi, dans la vie de tous les jours.
Oui.
C'est beaucoup plus courant. Des femmes, il y a toute cette idée de montrer sa poitrine, ne serait-ce que d'allaiter en public, c'est tout de suite un scandale. Enfin bref, il y a toutes ces questions-là. Donc je pense que je n'arrivais pas non plus avec un bagage trop, trop compliqué.
Oui, d'accord.
Après, je ne parle que pour moi, parce que voilà. Mais tout le monde ne sera pas, et c'est l'intérêt aussi de la compagnette, c'est qu'on ne va pas lancer quelqu'un qui n'est pas à l'aise, on va pas la lancer tout de suite à monter sur scène si elle ne s'y sent pas. Il faut sentir le moment, il faut savoir aussi ce qu'on veut montrer, ce qu'on ne veut pas montrer. Garder le soutien-gorge, c'est quelque chose qui est tout à fait entendable.
Oui.
On a ce qu'on appelle en français, parce que c'est presque les Français qui ont inventé cette logique-là, mais les nippies, c'est-à-dire ces petits bouts de qu'on voit souvent sur les seins, sur les tétons, pour cacher les tétons.
Oui.
C'est de la fausse censure, on va dire. Et donc, ça a forme de cœur, ça a forme de rond.
Oui.
Voilà, ça peut des fois avoir des petits
des petits pompons.
Des petits pompons. pompons que certaines personnes arrivent à très bien faire tourner. Ce n'est pas mon cas. Et du coup, voilà, on va cacher un petit peu les choses qui peuvent choquer par ce biais-là.
Ok, donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir une certaine pudeur, mais quand même pouvoir monter sur scène.
Bah, je pense qu'on est totalement une autre personne.
Oui.
Et il faut être d'accord avec ça. C'est-à-dire, même sur les sujets intimes, c'est-à-dire le coming out, c'est pas vraiment moi qui suis sur. Enfin, c'est ça qui est un petit peu déroutant, je pense. Mais c'est pas vraiment moi qui suis là. J'ai l'énergie du personnage pour pouvoir le faire.
D'accord, ok.
Mais vous me demandez de le faire en réunion de travail, bon, bah, je ne serais pas du tout dans cette même énergie-là.
Oui, bien sûr. Oui, c'est que tu dissocies, en fait.
Il y a vraiment une dissociation à ce moment-là.
Ça marche. Parce que du coup, ton personnage, c'est comment dire, c'est vraiment une autre identité. Ce n'est pas une partie de toi. Ah, enfin,
c'est un mélange des deux.
C'est un mélange des deux,
C'est comme si c'était une... On se crée une forme, on va dire, augmentée de soi-même. Mmh. Qui va pouvoir l'ouvrir davantage.
Ouais.
Moi, je suis quelqu'un qui déteste je déteste gêner les gens. Ce qui veut dire que je ne suis pas très bien en conduite déjà de base et qu'en plus, quand quelqu'un fait un scandale, je suis avec quelqu'un qui fait un scandale dans un magasin, mais je suis rouge pivoine.
Je comprends ce que tu veux dire.
Seulement, quand je monte sur scène, là, je peux me permettre des choses que je ne me permettrai jamais. C'est-à-dire je peux rendre rouge pivoine quelqu'un en rigolant de cette personne ou en plaisantant avec elle, mais je suis complètement autre.
Oui.
Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens timides qui se mettent à faire du théâtre quand ils sont plus jeunes ou autres. Enfin voilà, il y a cet aspect-là, il y a quelque chose de très très libérateur en fait.
Oui, une sorte d'adrénaline en fait.
Totalement.
Ok, bon bah c'est chouette. Et bah du coup j'avais une question là-dessus pour les personnes qui voudraient se lancer dans le burlesque mais qui n'osent pas. Par peur justement du regard des autres, de la pudeur, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager ?
Je pense qu'il faut s'autoriser. Et c'est souvent lié à des étapes de vie aussi, ou des vies personnelles, ça peut être d'un aspect familial ou d'un aspect aussi relationnel. C'est s'autoriser à se livrer, à aussi creuser en soi-même, parce que, comme je disais, on n'est pas là que pour faire du beau, et des fois, on a des traumas qui nous accompagnent, des choses, des expériences qui viennent avec nous. Et c'est important aussi de les creuser. Donc, il y a la thérapie, qui est une forme intéressante de base pour soigner les traumas, qui est la plus intéressante, je crois. Et puis, il y a le burlesque, et le burlesque, qu'importe ton corps, qu'importe ton genre, c'est un moyen d'expression et c'est un moyen pour toi de montrer que ton existence est essentielle, que ton corps est politique et essentiel et que si ça commence par un simple effeuillage au bois avec des choses très jolies, c'est très bien aussi. Viens comme tu es et nous t'accueillerons avec grand plaisir lors des workshops de la compagnie Être. Nous, on le propose, Dita Crazy le propose aussi. Il y a plein de gens qui font du burlesque qui le proposent. Mmh. Et du coup, quand tu te sens prêt et tu n'as pas d'obligation de faire de la scène, absolument. Ça peut être aussi un moyen, une activité, comme une activité sportive aussi, de te découvrir, de pratiquer un peu de théâtre, un peu de jeu, un peu d'improvisation. Et apprendre des mouvements aussi, des feuillages, mais sans avoir la pression de dire « je vais monter sur scène et je vais devoir me dévoiler devant tout le monde ».
Ok, très bien.
Il n'y a pas d'obligation.
Très bien. Eh bien, j'espère que certains et certaines d'entre nous ont entendu et ont envie maintenant de se lancer, on va dire. On espère en tout cas. Juste avant de clôturer l'émission, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux ?
Oui.
Pour suivre tes petites actus ?
Ça marche. Vous pouvez me suivre du coup sur Instagram principalement. J'ai un compte qui s'appelle Quenel -8 Brest.
Okay.
Sur Instagram. Je vous invite également à suivre du coup la compagnie Être, qui est aussi sur Instagram et sur Facebook.
Mm-hmm.
Donc c'est @compagnie Être, tout attaché, CIEETRE. Et puis je vous invite également à suivre le collectif IC qui performe dimanche
au Kubrick.
À partir de 18h, venez à 18h, je crois que le show commence peut-être vers 19h. Mais venez, il y a des drag queers, il y a des drag kings, il y a des drag queens. C'est la folie, le collectif HIC, et ça vaut vraiment le coup de les encourager. Et même par eux, vous pouvez avoir de mes nouvelles aussi, donc faut pas hésiter.
D'ailleurs, le collectif HIC, on va bientôt recevoir dans Sortez, dans quelques semaines, j'ai plus la date exactement, mais restez connectés.
Le 10, non?
Ça devrait être un truc comme ça, ouais.
Sœur Camille Bob, on a un peu parlé. Mais allez les voir, ça vaut vraiment le coup, c'est... Ils sont plus jeunes que moi et ils font des choses vraiment merveilleuses et ça vaut vraiment le coup de les encourager.
Très bien. Eh bien, merci Quenelle d'être venu
sur
le plateau. Bah,
merci beaucoup.
Je t'en prie. Et du coup, on va se dire au revoir et on se dit à demain dans Sortez pour finir la semaine Question Queer, la programmation que j'ai fait pour vous seulement pour vous. Et on se dit au revoir.